France Musique. La révolte romantique. Au XIXe siècle, le romantisme est avant tout une révolte. Révolte contre une urbanisation effrénée, contre un monde de plus en plus matérialiste, une bourgeoisie de plus en plus riche et de plus en plus puissante. Révolte contre un conformisme désespérant qui définit ce que doivent être le bon goût et les bonnes mœurs. Révolte contre un avenir qui ne promet plus rien, contre l'ennui, le dégoût que l'on sent en soi. Révolte contre le rationalisme qui brime les sentiments. Révolte contre l'ordre établi, contre les anciens, les classiques. Enfin, contre le siècle tout entier. Le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de sentir, nous dit le poète Charles Baudelaire. Non, il ne réside pas en telle œuvre, en telle technique ou en tel thème. Il est un climat. Le climat de la société de tout le XIXe siècle. Ce désenchantement, cette inquiétude, c'est d'abord un malaise existentiel que vit la jeunesse, cette impression d'être laissée pour compte à la fois par l'histoire et par la société de son temps, d'être incomprise. C'est la sensation de vivre dans un monde sans repère. C'est une éternelle incertitude, une éternelle insatisfaction. C'est une sensibilité blessée. Une mélancolie exacerbée par l'alternance des désirs et des doutes, des enthousiasmes et des chagrins. C'est enfin un profond sentiment d'ennui. C'est le mal du siècle, selon Chateaubriand. On habite avec un cœur plein, un monde vide, et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout, nous dit l'écrivain dans son roman autobiographique. Afin de fuir ce sentiment, les jeunes romantiques se réunissent dans les cénacles et donnent prééminence à leur vie intérieure. Ils écrivent, ils peignent, ils sculptent, ils gravent, ils composent. En Allemagne, le compositeur Ludwig van Beethoven ouvre la porte à cette expression intérieure. La musique instrumentale pure, et le piano plus particulièrement, devient peu à peu l'instrument de prédilection des romantiques. Il leur permet d'être l'écho de leur âme, de transmettre leurs sentiments et leurs émotions. Beethoven lui confie les nuances les plus fines, mais aussi ses doutes, ses souffrances, ses colères, ses fractures intimes sont celles de ses rythmes, de ses silences soudains. Ces nombreux accords qu'il demande de jouer au pianiste, sans doute le reflet de ses luttes, de ses combats. Le mouvement littéraire allemand Sturm und Drang, Orage et Passion, insuffle aux artistes de nouvelles forces créatrices. Les émotions l'emportent alors sur la raison. C'est grâce à Madame de Staël et ses ouvrages, comme La littérature en 1800 et De l'Allemagne en 1810, que cette nouvelle liberté de l'imagination peut pénétrer le monde artistique français. Les artistes découvrent alors les auteurs étrangers, comme le poète allemand Goethe, à travers Les souffrances du jeune Werther, écrit en 1774, ou Faust en 1775, mais aussi Schiller avec la pièce Guillaume Tell, l'Écossais Walter Scott et ses romans historiques dont Ivan Noé. Enfin, les Anglais, les premiers romantiques. Nombreux sont les poètes dont la vie est aussi inspiratrice que les écrits. Ainsi de Percy Shelley, John Keats ou Lord Byron. Et puis, le théâtre de Shakespeare. Le compositeur Hector Berlioz découvre Shakespeare lorsqu'une troupe de théâtre anglaise vient donner plusieurs représentations à l'Odéon en 1827. C'est une révélation pour tous les romantiques. Alexandre Dumas compare leur émotion à celle que dut ressentir Adam à son éveil au paradis. Shakespeare représente pour les romantiques la transgression des règles du théâtre classique, règles d'unité, de temps et de lieu. C'est la liberté de forme et de langage, le droit de mélanger les genres, sublime et grotesque, épique et quotidien, et l'expression de la réalité, de la vie telle qu'elle est. En France, la révolution de 1789 a privé d'aucun de l'enseignement de l'histoire dans les collèges. L'Église et le pouvoir exercent alors la censure. Hugo, Lamartine, Vigny ont reçu une instruction décousue. et se forge dès lors un goût plus personnel, moins soumis à la tradition classique, celle des anciens, que l'on nomme aussi les perruques. Enfin, c'est la consécration du romantisme. Le 25 février 1830 est donnée à la Comédie française la première représentation d'Hernani, pièce de Victor Hugo. Toute la jeunesse romantique fait barrage aux tenants de l'esthétique classique. C'est une véritable bataille. On hurle à l'outrage, mais la jeunesse l'emporte. C'est la victoire du romantisme et la naissance du drame romantique. Grâce à l'énergie des jeunes romantiques, leur insolence, leur désir d'émancipation, associé à la révolution des Trois Glorieuses, le mouvement peut triompher. Sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet, le pouvoir royal ne cesse de s'affaiblir. La vie politique s'ouvre alors à tous. La philosophie des Lumières a ruiné l'autorité de l'Église. Le vide, laissé par sa disparition, offre aux romantiques l'opportunité d'endosser le rôle de prophète. Victor Hugo en particulier, pour qui l'artiste a pour mission d'aider le peuple. L'engagement politique de l'artiste romantique est guidé par son aspiration à un monde meilleur. Les romantiques veulent donner un sens à la condition humaine. Ils veulent créer une société où régnerait la liberté et la fraternité. Ainsi, à la libération de l'art, succède la libération de l'homme. Artiste romantique, mage ou prophète, le compositeur et virtuose hongrois Franz Liszt se doit d'éclairer l'humanité. Tel est pour lui aussi le véritable rôle de l'artiste romantique. C'est par une très grande maîtrise de la virtuosité qu'il peut s'échapper des chemins traditionnels et donc en inventer de nouveaux. Car pour être un guide, un mage ou un prophète, il faut ouvrir de nouveaux chemins. La recherche de perfection est pour lui un moyen et non une fin. Il choisit alors la prouesse technique pour abolir les frontières, transcender les limites du temps et de l'espace. Exprimer des situations aussi changeantes que les passions ou les états d'âme, telles l'allégresse ou la langueur. Ainsi ses caprices ou scherzi, mais aussi ses fantaisies. À l'instar du théâtre en 1830, du roman, du conte fantastique ou de la peinture, Franz Liszt compose ses fantaisies comme des grands fleuves, charriant dans un vaste élan tout ce dont une époque peut rêver. Consciente de sa mémoire, mais aussi effrayée par elle-même. Pour les peintres romantiques, comme Delacroix ou Géricault, l'acte créateur devient un manifeste social, politique. La mission de l'artiste est aussi celle d'être un guide, une voix pour le peuple. Mais comment concilier l'art et le réel? Transmettre une certaine conception du destin de l'homme. Le radeau de la Méduse fait alors figure de manifeste du romantisme. Géricault n'hésite pas et fait des fils tués et dépecer l'image d'une jeunesse sacrifiée. À lui seul, dans un tableau monumental, il fustige le règne des vieux pères, Napoléon et Louis XVIII. Face au tableau, l'historien Jules Michelet affirmait « C'est la France elle-même, c'est notre société tout entière qui l'embarqua sur ce radeau de la Méduse. » Le peintre romantique s'est fait à la fois poète et héros. Aujourd'hui, les radeaux sont toujours là. Mais où sont nos romantiques ?
Thank you. À réécouter sur francemusique.fr.